RFI.
Radio France Internationale.
Signe particulier, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, vous allez entendre une belle histoire maintenant. La femme qui va la raconter s'appelle Marielle Trollendiaye. Cette histoire, c'est la sienne. C'est une histoire d'amour au Sénégal où elle a choisi de vivre dans un village, Popenguine, après s'être mariée avec Tamsir, agriculteur et pêcheur, et de faire sa vie, et avant d'être forcée de revenir en France. Elle raconte tout cela dans un livre intitulé « Femme blanche, Afrique noire » publié chez Grasset, et dans « Signes particuliers » aussi, un magazine réalisé par Vanessa Rovensky.
RFI.
Bonjour Marielle Trollendiaye, merci d'être venue dans ce studio pour nous parler de votre itinéraire qui est quand même un itinéraire fascinant, non ?
Je vous laisse juge.
Ouais. Vous le racontez dans ce livre dont je parlais à l'instant qui s'intitule « Femme blanche, Afrique noire ». Donc la femme blanche que vous êtes s'est retrouvée presque en un jour, je dirais presque, au fin fond du Sénégal.
Oui, je me suis retrouvée dans un petit village après avoir passé quelques semaines à Dakar, la capitale. Et puis, quand je suis arrivée sur cette plage de Popenguine, eh ben, l'évidence m'a crucifiée sur place. C'était là que je devais être. Et c'est donc là que je suis restée pendant quelques années. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari et que j'ai mis au monde mon premier enfant.
Voilà, donc on va revenir évidemment là-dessus. Vous écrivez, c'est la page 347 de votre livre pour être exact. Popenguine a guéri mon cœur des blessures causées par le doute, par l'angoisse, des questions sans réponse et par le manque d'amour. Rien que ça.
Eh oui.
On comprend que vous y soyez resté un moment. Hein.
En fait, quand j'étais en France, j'avais une vie plutôt bien rangée, une vie toute tracée, avec des études supérieures, un travail intéressant, une maison, un compagnon. Mais il me manquait l'essentiel, il me manquait donner un sens à ma vie, tout simplement. Et quand je suis arrivée sur cette plage, soudainement, j'ai compris que c'était là que je trouverais un sens. Et loin de tout ce que j'avais connu, loin de tout ce qui était évident pour moi, de mes certitudes. Et il a guéri mon cœur, oui, des blessures, parce que j'ai pu enfin m'ouvrir à ce que j'étais vraiment, et ne plus me protéger, ne plus avoir peur, ni de la pauvreté, ni de la misère dont on m'avait parlé, et qui n'est pas une réalité à Popenguine. J'ai pu me guérir donc de mes doutes, aussi, parce que l'expérience, cette vie-là était tellement extraordinaire et tellement à des milliers de kilomètres de ce que j'avais pu imaginer que ça m'a pris au dépourvu et ça m'a permis de voir les choses telles qu'elles étaient et j'ai rencontré surtout l'amour de mon mari.
Alors, ce qui est d'autant plus formidable, Marielle Trollendiaye, c'est que Popenguine, vous l'avez découvert presque par hasard, non ?
Oui.
C'est loin des routes touristiques et c'est bien pour ça d'ailleurs que vous êtes allée là-bas.
Oui. En fait, j'ai suivi le conseil d'un homme que j'avais rencontré dans une cantine à Dakar, où je mangeais régulièrement, et qui m'avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas à Popenguine pour mettre en œuvre ton projet, qui était à l'origine un bar-restaurant ?» Et je lui ai dit « Mais Popenguine, je connais pas, c'est où ?» Et il m'avait vraiment expliqué très succinctement, en prenant la route nationale, tu verras, à un moment, tu tournes sur ta droite et puis tu tomberas sur le village. Et c'est avec ces explications que je suis partie et que j'ai trouvé. Donc, je le redis, mais ce bout de plage, parce que c'est vraiment un instant très, très précis donc, qui est présent là dans mon esprit quand je vous en parle. Quand j'ai été sur cette plage et que j'ai vu d'un côté ce gros rocher et de l'autre l'horizon, j'ai dit, mais c'est vraiment là que je dois être.
Alors, parlez-nous, Marielle Trollendiaye, un petit peu de Popenguine. Alors, vous écrivez dans le livre que c'est pas très loin de Dakar, 60 km. C'est quasiment inaccessible.
Voilà.
Vous racontez dans le livre toutes les difficultés de transport qui sont classiques en Afrique. Décrivez-nous un petit peu en quelques secondes.
Alors, il y a Popenguine, c'est un village en deux parties. Le vieux village, groupé autour des baobabs, le baobab sacré, où il y a encore les rites rituels qui sont pratiqués, avec la poule, la bouillie de mil, par exemple, et le lait, où sont regroupées les familles, les vieilles familles de Popenguine, où vit la famille de mon mari, la concession des Ndiayennes. Et puis de l'autre côté de la route, parce que c'est traversé par une petite route en goudron, de l'autre côté de la route, le nouveau village où il y a les plus jeunes qui ont été trouvés un travail à Dakar, qui sont partis à l'étranger, qui ont pu faire des économies et construire une petite maison de l'autre côté de la route. Donc sur une parcelle bien délimitée, 20 mètres sur 20 mètres, ils ont construit leur maison. Tandis que le vieux village, c'est une succession d'enchevêtrements, de petites rues, de coins de murs, de pièces qui tout d'un coup tombent sur un poulailler ou sur une cuisine. Voilà, il y a les deux aspects, le popinguin traditionnel et le popinguin touché par la modernité et qui se développe au rythme de tous les autres pays.
En tout cas, je salue les auditeurs des deux parties de Popinguin qui nous écoutent en ce moment sur RFI. Mais ce qui est formidable dans votre livre, Marielle Trelendial, c'est que c'est une formidable histoire d'amour et on a l'impression que le destin vous a conduit à Popinguin, finalement.
Oui.
J'ai l'impression que tout vous poussait là-bas, finalement.
Tout me poussait là-bas et comme je...
Même vos échecs en France, tout.
Les échecs en France, c'était plus des échecs, comme on le disait tout à l'heure, de sens. Parce que du point de vue extérieur, il n'y avait pas d'échec, puisque j'avais une vie sociale plutôt riche et réussie, que beaucoup de gens auraient pu m'envier.
Mais il manquait quelque chose de profond.
Il manquait vraiment quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai effectivement trouvé, incarné dans la personne de Tamsir, qui est donc devenu mon mari, qui est un pêcheur, agriculteur. Et c'est vrai que rien, a priori, n'aurait pu favoriser cette rencontre. Je l'aurais croisé dans un cocktail, je l'aurais peut-être pas regardé. Ceci étant, il a une telle force, un tel rayonnement de personne, d'être, que forcément je l'aurais remarqué.
Alors vous racontez la rencontre, c'est quasiment le coup de foudre, quoi. C'est très sensuel d'ailleurs la description que vous faites de cette rencontre.
Alors c'est pas un coup de foudre de sa part, ce qu'il y a de sûr, parce que moi je correspondais absolument pas aux critères qu'il aurait pu rechercher dans une femme. Comme je le disais, j'étais plate devant et derrière, j'étais blanche comme une endive, et vraiment j'avais rien pour l'attirer. Et c'est vraiment moi qui ai provoqué notre rencontre plus intime, je dirais, et il s'est laissé porter par les sentiments qui naissaient, et surtout par mes sentiments à moi aussi, qui étaient tellement forts et tellement violents, je débordais d'amour pour lui, que il a été embarqué avec moi, et il ne l'a jamais démenti, parce que la plus grande preuve d'amour qu'il m'ait donnée, c'est de me suivre en France, et aussi de me donner un enfant, après très très peu de temps. On se connaissait depuis très très peu de temps, et je l'évoque dans mon livre. Si moi j'ai douté au moment de la conception de cet enfant, parce que je savais pas très bien où nous allions, lui n'a jamais douté et m'a réconforté en me disant, moi j'aime déjà cet enfant, et voilà, il me montrait par là que lui n'aurait jamais d'hésitation et pas de doute.
Alors il en fallait une sacrée dose, si je puis m'exprimer ainsi, d'amour, Marielle Trelendial, pour supporter quand même la vie dans ce village que vous décrivez dans ce livre. Donc là, il y a véritablement le choc des cultures.
Oui. Mais c'était pas difficile à supporter. C'était tellement évident pour moi d'être là, que le fait de porter une bassine d'eau sur la tête, le fait de manger du poisson tous les jours, le fait de vivre en tongs et en pagne toute la journée, le fait de me couler au rythme de la vie du village, c'était pas du tout une contrainte. C'était au contraire un grand bonheur. Ça m'a permis de me relier à moi-même et de laisser exprimer vraiment ma nature profonde. Donc c'était vraiment pas une contrainte. Vu de l'extérieur, et effectivement, on peut se dire, mais comment, s'adapter à tous ces changements. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de télé, pas de radio, pas de
journaux. Vous l'expliquez dans le livre, que vous veniez d'une maison avec piscine, une grande maison, très confortable, avec tout ce que vous vouliez, et à cette société sénégalaise dépouillée de tout. Vous citez d'ailleurs dans l'ouvrage, je sais pas si c'est un proverbe, en tout cas, c'est quelque chose qu'on dit au Sénégal, « Rien de ce qui est en ta possession ne t'appartient, puisque tu viens au monde tout nu, sans attributs, et que tu quittes ce monde également tout nu, tes richesses te sont seulement confiés. » C'est quand même pas facile de passer de la philosophie, je dirais, européenne à cette philosophie africaine.
Ça paraît pas facile a priori, mais lorsque l'on est frappé de plein fouet, comme j'ai été, par le bon sens, c'est du bon sens ce qui est dit là. Rien ne nous appartient effectivement, et quand les Africains rajoutent, quand vous dormez, même si vous êtes multimilliardaire, vous ne veillez pas sur vos richesses pendant votre sommeil, vous préférez dormir. Et si vous êtes ruiné pendant votre sommeil, vous l'ignorez, ça ne vous empêche pas de continuer à dormir. Donc l'essentiel, il est où? Est-ce qu'il est dans votre possession matérielle, ou est-ce qu'il est dans le fait que vous soyez, et que vous soyez vivant, et que vous soyez un être à part entière? Donc c'est tellement du bon sens que ça m'a frappé de plein fouet, et je n'ai pas pu faire autrement que d'y adhérer.
Signe particulier, Pierre-Edouard Deldic.
ce qui est formidable dans votre livre, Marielle Trollengal, c'est que c'est un livre aussi sans concession, parce que les Africains que vous aimez, vous les critiquez aussi.
Bien sûr. Quand je suis arrivée à Dakar, ils n'ont pas été tendres avec moi.
Par les mêmes magouilles.
Oui, j'ai été arnaquée. Mmh. Ceci étant, les Sénégalais ont une capacité à faire passer ces arnaques avec du panache.
Les banabana.
Voilà, les banabana. Ceci étant, oui, ça a été difficile au départ. Et tous les Africains ne sont pas non plus des gens tout gentils et beaux. Et non, au départ, j'avais un peu cette vision rousseauiste, hein, verrouillée au cœur. Pour moi, c'était le jardin d'Éden. Et bon, je suis vite revenue à la réalité.
Qu'ont les touristes que vous décrivez aussi dans ce livre.
Tout à fait. Donc il m'a fallu du temps. La première année, ça a été très exotique. Voilà, je suis dans un pays étranger, il fait beau, je rencontre des gens. Après, il y a eu une période où vraiment tout était à l'encontre de ce que je connaissais, donc j'avais vraiment du mal. Et là, heureusement que Tamsir était là pour me soutenir. Et puis après, j'ai enfin pu lâcher et me couler dans le moule et recevoir ce que ce pays avait à me donner. Mais avant de pouvoir recevoir ce qu'il avait à me donner, il fallait que je me vide de ce que j'avais reçu ailleurs pour ne pas le mettre en opposition.
Et vous êtes baigné en fait dans la vie du village en suivant la vie quotidienne de ses habitants.
Oui.
Dans la nourriture, dans les choses les plus...
Dans toutes les choses élémentaires. J'ai mis au monde notre premier enfant sur la table du dispensaire, comme font les femmes du village. J'ai été voir la matrone qui... prodiguer des massages qu'elle tenait elle-même de sa mère, qui les tenait de sa mère. J'ai porté mon enfant sur le dos. Je continue à porter mes enfants sur le dos puisque mon dernier né, qui est né en France, je le porte également sur le dos. Je mangeais au bol avec la main. Oui, j'ai porté mes bassines d'eau sur la tête. Oui, je me suis coulée dans ce mode de vie-là.
Alors comment les habitants de Popinguine qui étaient autour de vous voyaient votre démarche de blanche tout d'un coup intégrée dans leur village? Beaucoup d'auditeurs doivent se poser la question aujourd'hui, d'auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain, doivent se dire, mais pourquoi a-t-elle voulu, bon, il y a l'histoire d'amour, certes, mais vivre la vie que nous menons, sachant que beaucoup d'Africains aimeraient vivre la vie que nous avons, nous?
Parce que je connais la vie que nous avons, nous. J'en connais ses limites, j'en connais ses défauts. Je sais que ça, justement, ça a perdu mon cœur, comme vous le disiez tout à l'heure. Et que là, j'ai retrouvé la simplicité, j'ai retrouvé une vraie qualité de vie. Et voilà, ça s'est fait tout à fait spontanément et naturellement. Et ma sincérité, je pense, m'a servi de passeport. Je voulais vraiment comprendre, je voulais vraiment m'intégrer. Et du coup... toutes mes actions au quotidien allaient dans ce sens-là, et les gens ont dû le sentir. Et de ce fait-là, m'ont accepté comme une des leurs. Le mariage traditionnel que nous avons fait donc quelques années après notre rencontre avec Tamsir m'a prouvé que je faisais partie intégrante du village, parce que les femmes ont fait ce qu'elles auraient fait avec n'importe quelle autre femme du village, sauf que moi j'étais blanche. Et lors de la cérémonie, eh bien, je n'étais absolument pas préparée par ce qui allait se passer, puisque j'ai été prise au dépourvu, ça s'est décidé du matin pour le soir, et je suis rentrée dans ces rituels sans aucune difficulté.
Combien de temps êtes-vous restée à Popinguine, Marielle?
4 ans.
Oui. Donc on a le temps vraiment de s'habituer, et on sent qu'à petit à petit vous êtes prise par ce village, hein, qu'il y a une période de transition au début, et que petit à petit, même dans les gestes quotidien, dans la vie quotidienne, ça y est, vous êtes africaine.
Il faut du temps pour perdre ses habitudes. Les habitudes, on les prend très vite. Pour les perdre, c'est plus difficile. Donc en fait, je n'ai pas cherché à les perdre, j'ai essayé de remplacer les habitudes que j'avais par d'autres. Et c'était celle du Sénégal et de Popinguine. Et donc, je me suis mis au diapason, à l'unisson des habitants. Quand ils venaient et que j'étais absente, par exemple, ben, ils attendaient. Ça leur posait aucun problème d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures mon retour. Et j'ai fait pareil après. Quand j'allais rendre visite à quelqu'un et puis que la personne était absente, eh ben j'attendais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et pendant ce temps-là, eh ben je discutais avec d'autres, je prenais le thé, je prenais des nouvelles. Et je me suis vraiment mise dans ce moule-là, dans cette langueur et cette sérénité aussi de vie au quotidien.
Est-ce qu'on a l'impression, quand on est là-bas dans ce village et qu'on vient de France, d'être au bout du monde?
Pour certains, non, parce qu'ils recréent à Popinguine leur petit confort français. Donc, ils ont le téléphone, la télévision, leur portable, leur ordinateur. Donc, ils ont peut-être l'impression d'être au bout du monde parce que le paysage est magnifique. On est au bord de la mer. Il y a relativement peu de construction. Donc, de ce point de vue-là, on peut se sentir au bout du monde, mais relié. Moi, j'étais pas au bout du monde, mais j'étais plus reliée à ce monde dont vous parlez là. J'étais simplement en osmose avec le village dans lequel je me trouvais.
Mmh. En fait, les Africains sont au cœur du monde. C'est nous qui croyons qu'ils sont en marge oui. du monde. C'est une vision déformée un peu de la réalité. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en France, Marianne Trolley?
La maladie, parce que j'étais enceinte.
Là aussi, vous racontez dans ces pages que vous aviez le paludisme.
Voilà, il était devenu chronique. Et puis j'étais enceinte de notre deuxième fille. Et ça faisait plusieurs jours que j'étais sous perfusion. Ça se passait pas très bien. Et j'ai eu peur pour ma vie et pour celle de mon bébé. Parce que ça faisait quand même plus d'un an et demi que j'avais des attaques répétées de palu. Et donc j'ai demandé à Brûle-Pourpoint à Tamsir, est-ce que tu es prêt à m'accompagner en France pour que j'aille me remettre un petit peu d'aplomb quand même? Et il m'a répondu oui, sans hésiter. Lui qui n'avait jamais quitté l'Afrique et qui ne souhaitait pas la quitter. Et nous sommes partis donc un mois après.
Quelle expérience quand même pour votre fille, la première, Mariama, qui a vécu ses premières années dans un village africain. Extraordinaire. Hein.
Elle en parle toujours. À l'école, on me dit qu'elle parle beaucoup de Popinguine. Elle s'invente même des histoires, que son papa avait un grand troupeau de vaches, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et sa petite sœur, qui n'est pas née là-bas, mais qui y a été pendant les vacances, nous demande depuis, et pourquoi est-ce qu'on habite ici et qu'on n'habite pas là-bas? Voilà, je crois qu'elle résume tout notre questionnement actuellement. Pourquoi est-ce qu'on est ici et pas là-bas?
Et vous avez de très belles pages sur l'éducation, en fait, hein, sur le fait que le village entier se sent intéressé par le sort des enfants. Et vous avez aussi des pages que j'ai trouvées très drôles sur les femmes africaines. Mm-hmm. Quelquefois, vous n'êtes pas tendre avec elles non plus. Hein.
Autant la femme africaine, pour moi, c'est vraiment un modèle. Un modèle de mère, un modèle d'épouse. Loin de tous les clichés que l'on peut avoir de la femme soumise qui pile dans le mortier. Ça, c'est pas une absurdité, mais presque. Autant parfois, elle peut être extrêmement frivole, chicaneuse, dépenser énormément d'argent pour s'acheter une tenue à la mode pour aller parader dans un baptême ou un mariage. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Ceci étant, je pense que le fait qu'elles agissent ainsi permet aussi de découpiller les tensions et de vivre les difficultés quotidiennes dans la joie, tout simplement. Et Graoul, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a une image, quelque chose, un enseignement, quelque chose que vous retenez de ce passage?
La chose la plus importante, c'est que Popinguine m'a vraiment révélée à moi-même. M'a montré que je pouvais être un être humain digne de ce nom-là, et non pas une mécanique ou une machine. Ça a été un point vraiment fondamental pour moi. J'ai pu me retrouver. Je me suis rendu compte aussi que mon corps n'était pas simplement fait pour porter une tête omniprésente et toute puissante, pleine de pensées, pleine de mental, mais que c'était un corps qui pouvait être incarné, et de ce fait, en étant incarné, pouvoir donner aux autres.
Comment ça s'est passé dans le sens retour, Afrique, France?
Ça a été dur au départ, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en route. On n'avait rien. Pas de logement, même pas de vêtements chauds. Ceci étant, maintenant, nous avons la chance d'habiter donc dans ce petit village ardéchois qui comporte à peu près le même nombre d'habitants et qui, à bien des égards, ressemble à Popinguine de par l'accueil que l'on a reçu et la chaleur qui se dégage de cet endroit.
Vous avez quelque chose à dire? Ce sera ma dernière question, Marielle Trolendian, aux habitants de Popinguine qui nous écoutent en ce moment.
Oui, je les salue et je leur dis surtout merci, merci de m'avoir offert le meilleur d'eux et de m'avoir offert ces si belles années. Et à bientôt, à bientôt.
Merci Marielle. Merci Marielle Trolledian.
Merci à vous. I want to go back to Africa. I want to go back. I want to go back to Africa.
I want to go back. Marielle Trolendia, c'est la fin de cette édition de Signes Particuliers. Réalisation Vanessa Romanski, technique Mathieu Ribaud, notre adresse électronique.
signes.particuliers@rfi.fr.
Signes Particuliers au pluriel. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre et dans un instant un nouveau journal sur RFI. Mother Africa, I miss you, I miss you, I miss you. Oh yes, I miss you. Time runs so fast, so fast, so fast, so fast. And I want to leave.